ce jeudi saint, il est évident que nous allons parler, il me semble, de la Sainte Messe, de la Sainte Eucharistie, du Saint Sacrifice de la Messe, puisque c'est une série en grande partie sur les saints, par excellence aujourd'hui, n'est-ce pas? Il est question de ce qu'il y a de plus saint au creux de la foi chrétienne en général, chez les catholiques, les orthodoxes et certaines églises, au dégât les grandes églises traditionnelles d'autrefois qui se sont séparées malheureusement de nous, disons, au 5e siècle ou environ, ils ont conservé la même foi. Mais chez les protestants aussi, depuis le 16e siècle, il y a plusieurs groupes protestants qui croient à la présence réelle de Jésus, de Dieu, dans la très sainte Eucharistie, dans le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang de Jésus. Mystère incroyable, invraisemblable, qui a l'air d'une fable, et pourtant, c'est au contraire la vérité. C'est Dieu qui s'est fait pain dans le Christ. Vous allez voir comme c'est très beau. Plus on approfondit cet étrange mystère, plus on est soulevé d'enthousiasme. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je m'inspire d'un petit texte de Carlo Caretto dans Le Dieu qui vient. C'est très beau ce qu'il dit. Car l'Eucharistie, c'est cette pauvreté de Dieu. Oui, c'est cette apparence d'un Dieu qui se veut proche, là. Elle est, au fond, l'Eucharistie, vous savez, c'est l'hostie que tient le prêtre, puis sur lequel il prononce les paroles de Jésus que nous allons célébrer ce soir, hein, c'était fait la veille de son martyre et de sa mort. Ceci est mon corps, prenez et mangez. Or, c'est de la pauvreté même de Dieu. L'apparence d'un Dieu qui se veut proche. C'est cette venue de Dieu dans l'intimité de notre demeure, dans notre corps. Et aussi dans notre foi, qui doit être toute pure. Et à bien réfléchir, il y a de quoi rester complètement ébahi. Je vais vous faire une petite confidence. Il y a des gens qui n'aiment pas que je parle de moi, mais ça m'arrive des fois, là, de pécher contre ces gens-là. Il y a tellement d'autres personnes qui préfèrent que ce soit comme ça. Je ne sais plus quoi penser. J'ai cessé de croire à la présence réelle, moi, pendant environ, je dirais, 7 à 8 ans. Je n'y pouvais plus. Je n'y arrivais plus. Alors, inutile de vous dire que je communiais rarement, parce que je n'attachais guère d'importance à cette réception d'un morceau de pain. Et j'étais devenu, comme malheureusement beaucoup de nos frères protestants qui n'ont de sacrifice eucharistique dans leurs églises qu'une fois par mois. Et comme malheureusement certains autres chrétiens, d'autres églises qui ne communient que 2 ou 3 fois par année. Non pas qu'ils n'y croient pas ceux-là, c'est étrange. C'est peut-être une grande foi qui les éloigne, curieuse chose. Ils craignent, ils en ont peur. Or, il ne s'agit pas d'avoir peur, de s'approcher de Dieu et de laisser Dieu s'approcher de nous. Car il faut bien se demander, et c'est ce que je me suis demandé moi personnellement, c'est comme ça que petit à petit j'en suis sorti. Où le Christ est un fou? Bon. Un fou qui réunit ses amis, la veille de ce qui semble être pour lui sa mort, prononce des paroles de délire, il devient complètement ridicule, il dit des choses qui n'ont pas de bout, mais qui n'ont pas de sens, il fait ce long discours de la scène, dont je vous citerai tout à l'heure de très beaux passages, puis il regarde ses amis, puis il rompt le pain, ne donne aux siens, comme dit le texte de la messe, en leur disant, prenez et mangez-en tous, ceci mon corps livré pour vous. Puis à la fin de ce repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce, dit-on, en s'adressant à Dieu notre Père, c'est le prêtre dans la messe. Il te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle. » Alors, est-ce que c'est un fou qui parle et des paroles de délire et qui dit des choses qui sont complètement privées de toute signification? Et alors, c'est sans intérêt. Sans intérêt. Ou bien, et c'est là que moi je me range maintenant, après une absence qui a été tragique et difficile pour mon cœur, ou bien c'est vraiment l'amour. Hein? L'amour tout-puissant, l'amour miséricordieux qui a trouvé, je dirais, la voie, le chemin, mais aussi la voix, la parole la plus directe pour parvenir à notre intimité sans nous impressionner et nous épouvanter, simplement, le plus simplement possible, car c'est si facile d'avoir peur de Dieu, mais là, comment peut-on avoir peur de Dieu qui se fait tout petit? On peut parler un peu de cette présence du Christ sous le signe du pain. Rappelons-nous que dans la Bible, Dieu s'est fait présent en Adam, dans sa création. Il a parlé par Moïse, il s'est fait présent donc par la voix. Il s'est fait présent aussi par la conscience qui se développe en Abraham. Devant le problème de l'exécution de son fils, il lui enseigne non l'amour. Respecter son enfant, et Dieu ne veut pas de sacrifices humains. Il l'arrache, Abraham, à tout ce qui se faisait dans son temps de sacrifices humains dans les pays voisins. Dieu se manifeste aussi dans une expérience profonde et prophétique dans le prophète Élie. Il se manifeste aussi, puis il se fait présent dans l'intimité, en Jacob. Puis depuis, comme si cela suffisait pas, tous ces manifestations, ben il est devenu présence visible et tangible en Jésus, qui s'est incarné, qui s'est fait homme comme nous, qui a été porté 9 mois par Marie. On l'a célébré le 25 mars dans cette émission que nous avons faite ensemble, le 25 mars, l'Annonciation. Et Marie a porté Jésus. Il s'est fait visible, tangible. Les apôtres l'ont vu, et on voit Thomas, hein, après la résurrection, qui touche aux plaies. Puis, on peut dire même qu'il s'est fait père, Dieu. Dans sa révélation la plus profonde qui sort de la bouche de Jésus, « Notre Père, quand vous prierez, dites notre Père. » Quand il raconte aussi cette belle parabole de l'enfant prodigue, de ce père absolument bouleversant d'amour à l'égard de son fils prodigue, son fils qui se conduit comme un jeune fou, quoi, qui va tout dépenser l'héritage de son père, comme nous, quand nous cessons de vraiment adhérer à l'Évangile, nous nous conduisons comme de jeunes fous. Nous avons un trésor qui nous vient de l'Église, qui vient des apôtres, qui vient du Christ lui-même, qui est déposé dans notre cœur, hein? Toute cette parole, cet enseignement, cette richesse libératrice, sans compter justement cette Eucharistie que nous pouvons recevoir, et nous quittons tout ça, ce trésor que nous dispersons dans des conduites insensées et folles dont nous sommes des pécheurs. Des idiots comme le fils prodigue. Mais le Père, selon la parabole de l'enfant prodigue, nous attend toujours. Il nous aime constamment. Il voit toujours, au fond de notre cœur, la possibilité d'un retour. Et c'est ce qu'il désire le plus pour pouvoir nous aimer et être aimé de nous. Et ainsi que nous nous libérions, que nous soyons libres, libres. Et en Jésus nous est rendu aussi présent l'Esprit Saint, dans la plénitude du don de soi, car c'est ça l'Esprit Saint. C'est toujours le même Dieu. Jésus manifeste et nous transmet son Père. Il nous transmet l'Esprit Saint. Il est Dieu, seconde personne de la Trinité, parole éternelle. Or cela pourrait suffire comme manifestation de Dieu depuis Adam jusqu'à Jésus. Mais les rendez-vous, là, puis les lieux de rencontre ne manquent pas à l'homme qui cherche Dieu. Il suffit de vouloir le trouver. C'est plein de rencontres. Regardez dehors aujourd'hui, cette lumière magnifique du printemps. Les bourgeons dans les arbres. Cette créativité de Dieu qui se manifeste. Tout ça, c'est une façon de se donner à nous. Et encore plus, évidemment, dans le regard d'un autre, dans la voix d'un enfant, dans l'apparition d'un enfant dans le sein de sa mère. Est-ce qu'il n'y a rien de plus beau qu'une femme enceinte? Que c'est beau, hein? Quand on en voit dans le métro ou dans la rue, que c'est magnifique. Cette femme qui porte dans son sein un être humain, que c'est beau. C'est Dieu qui crie son existence. Et c'est sûr que la créativité de Dieu a trouvé toutes sortes de moyens pour se manifester, mais a trouvé encore une manière de concrétiser, je dirais d'actualiser sa présence parmi nous, près de nous, devant nous, à deux pas de nous, je dirais même en nous. Et c'est saint Paul qui en parle admirablement dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11. Je lis ce beau texte. Que c'est beau la Bible. Bon, c'est pas toujours beau, hein. J'avoue que quand on lit le Lévitique ou des choses comme ça, c'est pas drôle. Mais la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, voici ce que saint Paul dit, crie, hurle. Pour moi, j'ai appris, venant du Seigneur, ce qu'à mon tour je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. Chaque fois donc que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, dit saint Paul, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. » C'est pourquoi quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Je vais y revenir là-dessus. Il ne faut pas prendre le corps et le sang de Jésus de façon indigne. Non, non, vraiment pas. C'est dans la Bible. Il ajoute, saint Paul, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Il les invite. C'est pas qu'ils disent que nous sommes tous indignes, donc personne ne doit s'approcher. Au contraire, c'est pas ça qu'il dit. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car quiconque mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit sa propre condamnation. C'est pour cela que beaucoup parmi vous sont malades et infirmes, et qu'un certain nombre sont morts. C'est un langage mystique. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais nous sommes jugés et corrigés par le Seigneur pour n'être pas condamnés avec le monde. Ainsi donc, mes frères, mes sœurs, quand vous vous réunissez pour le repas du Seigneur, attendez-vous les uns les autres, si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin de ne pas vous réunir pour votre condamnation. Quant aux autres points, je les réglerai lors de ma venue. Il est difficile de croire à des paroles aussi terribles et bouleversantes de la part du Christ, mais il est aussi difficile de se libérer de ces paroles-là. Moi, je n'y suis pas arrivé, j'ai pensé le faire, mais je ne l'ai pas fait, finalement. Personnellement, je n'y parviens pas, comme dit Carlo Caretto. Et si je le faisais, je pécherais contre l'Esprit. Et c'est pour cela qu'on peut dire, moi je crois à ce que Jésus a dit. Je crois que ce pain de vie est le Christ près de moi. Le Christ devenu pain pour moi. Le Christ devenu présence à moi. Est-ce qu'on ne sait pas au fond de notre cœur que cet acte de foi est obscur comme la nuit? Mais on peut se rassurer que rien n'est plus clair que cette nuit. Et c'est au creux de cette nuit que jaillit la lumière. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé dans la nuit, quand le Saint-Sacrement est exposé parfois, autrefois surtout durant les 40 heures, mais encore aujourd'hui dans certaines églises, ce soir dans la nuit du Jeudi Saint au Vendredi Saint, on fixe durant des heures ce pain dans l'ostensoir, ou du moins dans un ciboire, sous un voile, où on le fixe intérieurement dans le tabernacle. On peut vivre ainsi durant des retraites dans des monastères ou ailleurs pendant des semaines avec cette certitude qu'il est, lui, Jésus dans l'Eucharistie, la seule présence qui nous retienne dans ces endroits où nous vivons dans le silence. Et nous évitons toute conversation inutile pour passer 5, 6 ou 7 heures en prière par jour, avec promenade dans la campagne, le chant des oiseaux, le bruit des animaux, et aussi ce bruit parfois un peu agaçant, mais merveilleux quand même, des insectes. Et c'est toujours, que Jésus nous dit dans la foi, dans ces moments-là, « Ne crains rien, je suis là. Oui, je suis là et je t'aime. N'aie pas peur de l'obscurité. » Vous savez, quand on y va la nuit, je me souviens à l'abbaye de Gbel, je souffre facilement de me réveiller la nuit. J'aurais dû rentrer dans ce monastère où on se réveille la nuit à minuit ou 2 heures. Alors je me réveillais, puis souvent il n'y avait pas de pleine lune, et c'était délicat de se rendre de l'hôtellerie jusqu'au monastère. Je ne connaissais pas les sentiers, je risquais de tomber. Mais on finit par se rendre, trouver la porte, et dans ces monastères, les portes sont ouvertes, même la nuit. Et c'est curieux, mais c'est comme ça. Puis à tâtons, comme un aveugle, on se rend jusque dans la chapelle, et tout à coup, hop, la lumière se fait. Pourquoi? Parce qu'il y a la lampe du sanctuaire. Petite bougie de rien du tout, à côté du tabernacle, qui illumine toute l'église. C'est curieux, hein, une seule lampe. Il faut dire que les yeux se sont faits à la noirceur, hein. Et de s'agenouiller là et de rester 1 heure ou 2, n'aie pas peur, dit Jésus, de l'obscurité. Fais-toi enfant pour entendre mes paroles. J'ai voulu devenir pain pour que les hommes me mangent. Pour que, en me mangeant, il mange la vie éternelle. C'est dans l'Évangile, hein? Jésus le dit. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. C'est des paroles de fou, mais c'est des paroles de Dieu. C'est Dieu qui parle. Ça peut pas être un fou. Un fou parle pas comme ça. C'est Dieu. Oui, c'est Dieu. Et Jésus nous dit aussi au pied du Saint-Sacrement, « Du reste, pourquoi trouves-tu étrange que j'ai voulu devenir pain par amour? N'as-tu jamais fait l'expérience de l'amour? Quand tu as aimé, aimé vraiment, n'as-tu pas désiré devenir pain pour celui ou celle que tu aimais? » On peut contester l'Eucharistie comme je l'ai fait. Oui, contester l'Eucharistie autant qu'on veut. Mais le jour où on est vraiment pris par l'amour, on comprend. On comprend peut-être que Jésus n'est pas un sot et encore moins un fou. Mais non. C'est le lieu de la rencontre souveraine entre l'éternité et le temps. Entre Dieu et nous, petits êtres humains perdus sur cette planète, qui roule sur elle-même et qui roule autour du soleil, petit astre de rien, mais superbe et splendide dans sa construction et dans son équilibre, perdu dans cette immensité d'une galaxie et de milliards d'autres galaxies. Qui sommes-nous pour que Dieu nous aime tellement? Dieu se fait pain pour pouvoir nourrir tout le monde de son sang et de sa chair. C'est ce que Jésus nous dit. Qu'il est heureux. Oui, je suis heureux de pouvoir devenir pain, pouvoir nourrir tout le monde de mon sang et de ma chair. Oh, mes amis, nous sommes tous, et moi particulièrement, terriblement égoïstes et peureux en présence de la souffrance. Mais je sens de plus en plus en vieillissant, comme Carlo Caretto, que si je pouvais devenir pain pour sauver tous les hommes, je le ferais. Je ferais comme Jésus, oh, si je pouvais devenir pain pour rassasier tous les pauvres, je me jetterais dans le feu une fois pour toutes, et je ne reviendrais pas en arrière. Je fais mienne ces belles paroles de Carlo Caretto. C'est pas une chose si étrange que ça que l'Eucharistie. C'est en fait la chose la plus logique en même temps, la plus logique du monde. Car c'est l'histoire du plus grand amour qui ait été vécu sur cette terre par un homme appelé Jésus. Et lorsqu'on regarde ce pain, lorsque nous prenons ce pain dans nos mains, nous regardons et nous prenons la passion et la mort du Christ pour l'humanité. Et ce pain est le mémorial de sa mort pour nous. Et ce pain est aussi la proclamation de sa résurrection, grâce à laquelle nous aussi nous pourrons un jour ressusciter. Et ce pain, c'est le résumé vivant de tout l'amour de Dieu pour l'homme. Mais oui. Si on regarde bien la Bible de la Genèse aux prophètes, de l'Exode à l'Apocalypse, tout est aspiration à ce terrible mystère de l'amour tragique d'un Dieu pour l'homme. Que cet amour de Dieu est tragique. Nous allons le vivre ce soir et cette nuit, alors que Jésus sera jeté en prison, Dieu en prison, Dieu prisonnier, Dieu flagellé, Dieu couronné d'épines, Dieu bafoué, battu, frappé, Dieu moqué, Dieu moqué. Ça se fait aujourd'hui dans notre ville. On se moque de Dieu, même à la télévision, dans des clips de nuit, pendant les jours saints. Dieu est toujours moqué. Mais Dieu qui s'est fait présent à l'homme pour la première alliance, qui s'est fait plus présent dans l'incarnation, il se fait plus présent encore dans ce mystère que l'on appelle le pain de vie. Oh Seigneur Jésus, si vivant, si présent, ça nous est annoncé dans le livre de Joël dans l'Ancien Testament. Vous mangerez tout votre sou à satiété et vous louerez le nom de Yahvé, votre Dieu, qui aura accompli pour vous des merveilles. Vous saurez ainsi que je suis au milieu d'Israël, moi, que je suis Yahvé, votre Dieu, et sans égal. Mon peuple ne connaîtra plus la honte jamais. Plus vous communierez, plus vous recevrez le corps du Christ, plus vous serez fiers de cette fierté joyeuse de ceux qui sont, comme dit mon petit-fils, les amis de Jésus. Donc en ce jeudi saint, il est question de la très sainte messe, de la très sainte Eucharistie. Eucharistie qui veut dire action de grâce. Dans l'Eucharistie, on peut tenir Dieu dans notre main. Oui, comme un morceau de pain. Et c'est la présence la plus proche et la plus personnalisée en même temps que l'on puisse imaginer. Et seule sa présence glorieuse, là, au banquet du ciel, va dépasser cette présence actuelle dans le morceau de pain. Tu peux emporter Dieu avec toi, mon petit, oui. Dans ton cœur, au fond de toi-même. Il y a des gens même qui ont l'autorisation de recevoir ainsi le corps du Christ dans une custode, une toute petite boîte, en général dorée, pour la porter avec eux et la donner à des malades. Ils s'en vont dans la rue, dans le métro, ou dans leur voiture, avec Dieu avec eux. On pourrait souhaiter que vienne un temps où nous aurions, mais c'est un rêve impossible, où tous les chrétiens, après la messe, nous emporterions l'Eucharistie dans nos maisons, mais c'est impensable. Mais ce serait merveilleux, nous pourrions construire de petits oratoires pour honorer la présence de Dieu au cœur de notre foyer. Et nous puiserions dans ce mystère la force d'aimer, la joie de vivre. Mais ce n'est pas nécessaire. Il est en nous. Il est avec nous, nous sommes en lui. Il est partout. Il est infini. Et dans le mystère eucharistique, mais dans le sacrement du pain de vie, Dieu s'est véritablement fait tout à tous. Chacun peut le voir, le toucher, le prendre, le manger, le contempler, et même le situer, si on veut. Enfin, chacun, s'il le veut, peut passer avec lui tout le temps que son amour l'invite à partager avec son Dieu. Mais tout cela sans trouble. On n'a pas besoin d'avoir peur. Il est petit morceau de pain. Mais il n'aura pas une emprise épouvantable sur notre sensibilité, comme un grand personnage. Les gens sont tellement émus. Je voyais il y a quelques jours des gens devant un évêque, là, trembler presque. Oh mon Dieu, un évêque. Et cet évêque me disait, mais qu'est-ce qu'ils ont tant à m'attacher tant d'importance? Il y a une importance un peu craintive devant certains personnages. Mais devant Dieu qui se fait pain, il n'y en a pas. Il n'y a pas de pâmoison esthétique non plus. C'est du pain. On n'est pas pâmé devant un costume royal avec des couronnes et des traînes et des ci et des ça. Il n'y a pas d'obsession qui pourrait susciter aussi un désir vorace ou des faiblesses de toutes sortes. Pas du tout. C'est si simple. Si Dieu se trouvait devant nous sous une autre forme, plus apparente, plus savoureuse ou plus triomphale, on se sentirait écrasé et même épouvanté. Hein? Mais sous le signe du pain, là, Dieu nous laisse complètement libres. Dieu n'agit que sur notre foi. Il est le grand mystère de notre foi. Il ne stimule que notre espérance. Il est le mémorial. Il ravive notre charité. Il ravive notre amour, dont il est évidemment la nourriture, puis le modèle. La présence eucharistique, c'est vraiment une chose extraordinaire. Un seul Dieu pouvait trouver un mode de présence aussi intelligent et aussi proche. Je vous ai déjà dit dans une autre émission que Salvador Dali, avec toute l'imagination folle qui l'habitait, n'y aurait jamais pensé. André Breton, le grand pape du surréalisme des années 20, n'y aurait pas pensé. Qui aurait pu penser de se donner vivant, ainsi, dans du pain et du vin, si ce n'est Dieu? Ça n'entraîne aucune complication dangereuse pour notre sensibilité, pour notre sensualité, notre égoïsme. Non, nous le recevons. Et nous ne pouvons que désirer partager son humilité, sa petitesse. Oui, l'humilité de Dieu, la petitesse. Dieu se fait petit, petit. On sent très bien ce qui arrive aux serviteurs qui ne sont pas encore adultes ou aux employés distraits. Lorsque le patron ou le chef de bureau est présent, je me souviens d'être allé comme ça dans l'usine de mon frère. Je partais pour l'Europe. Et j'étais allé visiter son usine, immense usine. Il y avait, je sais pas, 200-300 employés. Et nous étions passés par une porte dérobée qui donnait sur le toit. Il y avait une passerelle en haut. Et du haut de cette passerelle, on pouvait voir en bas les employés qui travaillaient un peu comme des fourmis. C'était une conserverie. Quand un des employés a levé la tête, ayant entendu le bruit qui se passait en haut, a vu mon frère, tout de suite, ça s'est dit de bouche à oreille, « Le patron est là, le patron est là, le patron est là. » Et tout ce monde s'est mis à travailler deux fois plus vite. Étrange, j'avais jamais vu ça. Dès que le patron est dans le champ de vision, tout le monde change. Et le monde devient facilement faux. Les gens s'agitent pour montrer leurs ailes, Ils deviennent flatteurs pour faire mieux, une meilleure carrière. Même, et dans certains cas, ils vont jusqu'à prostituer certains de leurs talents pour faire plaisir au plus fort. Mais nous, il ne faut pas l'oublier, nous sommes des serviteurs adolescents immatures. Nous sommes des petits employés distraits. On le sait, nous sommes comme ça aussi. Mais avec Dieu, c'est pas possible. Il nous laisse toute notre vie, sans jamais se montrer autrement. Il nous abandonne dans notre travail. Il fait semblant d'être parti, qu'il va revenir à la fin des temps. Et pourtant, il est là, oui, il est bien là. Discret, très discret. La foi et l'amour vont faire que nous allons découvrir son visage au cœur de notre engagement. Il est près de nous, dans le champ de nos activités. Il est caché dans le morceau de pain que nous avons pris et mangé. Il nous regarde de l'intérieur. Il ne dit rien, absolument rien. Et aussi, il peut prendre la vraie mesure de notre amour. Ou mieux encore, précisément, parce qu'il n'est ni comme un chef de bureau, ni un directeur de conserverie, ni un inspecteur. Il nous laisse disposer de tout notre temps, sans rien dire, pour que nous puissions mûrir dans le véritable amour pour lui, et pour nous permettre d'apprendre à l'aimer gratuitement, sans peur. À l'aimer parce qu'il est l'amour, et non parce qu'il est puissant ou qu'il puisse... Il pourrait nous écraser, pas du tout. L'aimer parce qu'il est l'amour. L'aimer parce qu'il est la lumière. Non parce qu'il nous fait plaisir, non. L'aimer parce qu'il est la vie. Et non parce qu'il est une certaine sécurité, puis qu'il nous accorde du bien-être, non. qu'il faut dire avant tout, c'est qu'il est là en tant que nourriture, Dieu. Le pain est nourriture. L'Eucharistie est nourriture. Dieu est avant d'être amitié, il est pain. Dieu avant d'être notre juge et notre nourriture. Il l'a dit lui-même, « Je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. » C'est dans Saint Jean, chapitre 12. Et ce n'est pas un chef de bureau qui me regarde, c'est un frère qui me nourrit. Et c'est cette nourriture qui me transforme. Ça aurait été bien inutile qu'il vienne constater notre misère, notre faiblesse, et puis notre facilité à nous pervertir. Il est bien préférable qu'il soit venu pour nous changer. Et il nous change en se donnant lui-même à nous pour nourriture. Et il nous change en se laissant manger par nous, oui. Quelle étrange chose. Quand on relit le discours que Jésus fait à la synagogue de Capharnaüm, Jean nous le rappelle tout entier, ce discours scandaleux, incompréhensible pour qui reste en dehors de cette pensée, qui est une énigme, qui a mis en crise la plupart des hommes depuis ce temps-là. C'est un discours qui a fait, les gens se sont dit que ça n'avait pas de sens ce qu'il disait. Mais ce discours est avant nous, devant nous, avec nous, et nous poursuivra jusqu'à notre mort avec toute la lumière et sa simplicité, avec toute l'obscurité aussi, qu'il offre à notre petite raison raisonnante. Il est dit dans ce texte de Saint Jean au chapitre 6, Jésus leur dit, en vérité, en vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Non, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang possède la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair, véritablement, se mange. Et mon sang, véritablement, se boit. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Et de même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi, je vis par le Père. Ainsi, celui qui me mange vivra lui aussi par moi. Voilà le pain descendu du ciel. Non comme celui qu'ont mangé vos pères qui sont morts, c'est la manne. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre à ce discours? Si on ne l'accueille pas tout entier avec une âme d'enfant, en croyant à fond que Dieu, amour, a vraiment voulu se donner en nourriture à nous, oui, à nous tous, et en lui, le désir et l'être sont une seule et même chose. Il est venu à nous, il vient chaque jour, il nous nourrit de vie éternelle, il est lui-même la vie éternelle. Nous nous nourrissons de Dieu. Mais c'est pour cela que, peu à peu, nous devenons frères du Christ par le sang, par l'âme. Le sang, c'est l'âme, dans le langage judaïque. Je vous l'ai déjà dit, rappelez-vous, les témoins de Jéhovah n'acceptent pas de transfusion de sang parce qu'ils ne veulent pas avoir de transfusion d'âme. Nous devenons frères du Christ par le sang, par l'âme du Christ. Fils du Père aussi. Peuple de Dieu, en élevant le calice de la Nouvelle Alliance, qu'est-ce qu'on proclame? On proclame dès maintenant l'éternité, le temps où, à la table de l'amour, le temps éternel, où nous nous nourrirons d'amour, nous exhalerons l'amour par lequel nous serons un avec l'amour, avec ce Dieu, un seul Dieu, qui est la Trinité Sainte. Quand on retourne dans le temps, très 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 loin, avec quelqu'un qui est né en l'an 50 et qui est mort en l'an 107, je vous en ai déjà parlé, le 17 octobre dernier, c'est Ignace d'Antioche, un évêque, martyr. À Antioche, il y avait eu un premier évêque, c'était Saint-Pierre. Oui, qui est allé prendre le siège ensuite de Rome, où il est mort. Son corps est sous l'autel majeur de Saint-Pierre de Rome. Le pape, son successeur, quand se célèbre la messe solennelle à Saint-Pierre de Rome, célèbre au-dessus de la tombe de ce premier pape. Après Saint-Pierre, il y a eu Saint-Évode, et ensuite Saint-Ignace. Alors, il a été martyrisé, puis il a fait un long voyage de Smyrne à Rome. Puis, dans la conception d'Ignace, se fait quelque chose d'extraordinaire au sujet de l'Eucharistie. Il dit qu'elle nous assimile au ressuscité de manière à nous faire vivre de sa vie. Déjà, vous voyez, au tout début, on pense comme ça, non seulement dans les textes des évangiles, les actes des apôtres, mais aussi chez les premiers grands chrétiens. L'Eucharistie est, nous dit-il, Ignace d'Antioche, un remède d'immortalité. Et on aimerait prendre des remèdes pour, oh mon Dieu, rester jeune, longtemps. Une espèce de petite immortalité temporaire. Mais l'Eucharistie, c'est un remède d'immortalité, vrai. C'est un antidote pour ne pas mourir, mais vivre toujours en Jésus-Christ. Et pas une pommade. C'est Dieu lui-même. C'est pas moins essentiel à la compréhension qu'Ignace d'Antioche en a, de nous faire recevoir le ressuscité là, comme celui qui a souffert pour nous, puis dont la souffrance nous a sauvés, par l'agapé, c'est-à-dire l'amour fantastique là, qui s'est révélé. C'est l'amour qui sauve. Hein? Déjà, il le dit, Ignace d'Antioche. Ignace dit aussi à ses fidèles de Smyrne, qu'on appelle les Smyrniotes, comme à Montréal, on appelle les Montréalais, eh bien, les Smyrniotes, il leur dit, eux qui sont ravagés par toutes sortes de doctrines comme celle du docétisme d'après cette doctrine, le Fils ne se serait incarné et n'aurait souffert qu'en apparence. Non, non, Ignace va souffrir le martyr, il reconnaît le martyr du Christ. Et il dit ceci, qui est très important et qui s'applique au jour d'aujourd'hui, hein? C'est fantastique, c'est dit en l'an 107. C'est très actuel. Il dit, en parlant des docétistes, ces hérétiques, donc, qui ne croient pas que le Christ ait vraiment souffert. Mais les musulmans nous disent ça, que le Christ n'a pas souffert et n'est pas mort. C'est dans leur Coran. Ces hérétiques, dit Ignace d'Antioche, les musulmans n'existaient pas dans ce temps-là, hein? Ces hérétiques s'abstiennent de l'Eucharistie et de la prière parce qu'ils ne confessent pas que l'Eucharistie est la chair de notre Sauveur Jésus-Christ, laquelle a subi sa passion pour nos péchés et a été ressuscitée par le Père dans sa bonté. Ceux donc qui s'opposent au don de Dieu meurent de leur contestation. Je répète, ceux donc qui s'opposent au don de Dieu meurent de leur contestation. Ils meurent dans leur âme. Hein? Ils feraient mieux d'aimer pour ressusciter, dit Ignace d'Antioche. C'est fantastique des paroles comme ça. Il va parler de lui-même, d'ailleurs, dans son épître aux Romains. Il a écrit, Ignace d'Antioche, une épître aux Romains, au moment de se livrer à son propre martyr. Je vous ai tout raconté ça en détail. Il dit ceci, « Je suis le froment de Dieu, et je suis moulu par la dent des bêtes pour être trouvé pur pain du Christ. Je ne prends plus de plaisir à une nourriture de corruption ni au plaisir de cette vie. » Et il ajoute cette phrase fantastique, « C'est le pain de Dieu que je veux. » Oui, c'est le pain de Dieu que je veux, qui est la chair de Jésus-Christ de la race de David. Et pour breuvage, c'est son sang que je veux, c'est-à-dire l'amour incorruptible, hein? Il explique bien ce que c'est le sang de Jésus. L'amour incorruptible. Quand vous voyez le prêtre tenir le calice dans ses mains et s'abreuver, et quand vous communiez à l'occasion sous les deux espèces, c'est l'amour incorruptible que vous recevez en recevant le sang. Dites-vous bien ça, c'est dit dans les paroles de cet Ignace d'Antioche, évêque. Je rappelle donc ces paroles magnifiques dans son épître au Romain, c'est le pain de Dieu que je veux, qui est la chair de Jésus-Christ de la race de David. Et pour breuvage, c'est son sang que je veux, c'est-à-dire l'amour incorruptible. On peut dire que ce texte fait de l'Eucharistie la nourriture des martyrs. C'était un martyr, il s'en allait, quand il a écrit ça, il s'en allait vers son martyr à Rome. Il a parcouru un très long trajet. Mais il faut aller plus loin et préciser que l'Eucharistie donne au martyr sa substance, de sorte que celui qui le subit devient l'Eucharistie même. Est-ce que nous ne sommes pas plus ou moins martyrisés par la vie, certains d'entre nous? La souffrance, la maladie, la mort qui s'annonce, nos enfants qui nous trahissent, nos enfants qui meurent, nos enfants drogués, nos enfants qui nous renient, les femmes abandonnées, les maris abandonnés. Tant de souffrances aujourd'hui dans les foyers, les prêtres déçus de leur sacerdoce qui sombrent, semble-t-il, dans les églises parce qu'ils n'ont plus de fidèles qui pleurent au fond d'eux-mêmes, et les prêtres vieillissants qui se demandent qui leur succédera, et nos évêques qui sont inquiets peut-être au fond de leur cœur, je l'imagine. Eh bien, au fond de nos martyrs, nous devenons l'Eucharistie même. Si cela a un sens, c'est que l'Eucharistie nous ayant nourri du Christ, en nous associant à sa passion, et très spécialement à l'agapé, à l'amour qui en est comme l'âme, eh bien, réciproquement, le martyr, en réalisant dans l'existence de nous qui communions la perfection de cet amour, ça donne tout son réalisme à notre association à ce Christ qui souffre et qui ressuscite. Si bien que la présence du ressuscité se révèle dans nos martyrs, dans nos passions. C'est Ignace d'Antioche encore qui disait « Il est bon pour moi de mourir de manière à être en Christ Jésus, pour que régner sur les extrémités de la terre, c'est lui que je cherche, celui qui est mort pour nous, lui que je veux, celui qui est ressuscité pour nous, c'est mon enfantement qui approche. » Alors c'est le plein sens où il faut prendre ces expressions caractéristique, un être trouvé en Jésus-Christ. Il disait ça déjà, moins de 100 ans après la mort de Jésus. Être trouvé le pur pain du Christ, disait-il. Être trouvé un sacrifice à Dieu. Atteindre Jésus-Christ. Atteindre l'héritage qui m'a été concédé miséricordieusement. Il dit aussi, atteindre Dieu. Atteindre Dieu. C'est ce qui se passe au moment de l'Eucharistie. C'est ça, c'est tout simplement ça. Ô Dieu, par ce sacrifice s'opère un échange admirable où vous nous faites participer à votre unique et souveraine divinité. Nous qui connaissons votre vérité, faites que nous soyons, par notre conduite, dignes de la suivre. Nous vous le demandons, Père, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. C'est l'oraison du 18e dimanche après la Pentecôte. C'est tellement beau, et ce texte de Claudel, si beau, qui dit, le pain que je te donne à manger est-il pur et le vin que je suis est-il fort? De quoi te servirais-tu pour séparer ta personne de la mienne? Quelle est la partie de ton être où je ne sois et qui ne m'appartienne? Ego sum, c'est moi. Ta maison est assez grande pour qu'elle me contienne. Avant que tu le saches, j'étais là. Et je demeure avec cet homme que j'ai fait. Tu cesserais d'exister si je me retirais. Viens avec moi où je suis, en toi-même, et je te donnerai les clés de l'existence. là où je suis, c'est là éternellement. Quel est le secret de ta naissance? Et c'est en vain que tu te débats. Tu ne te défendras pas éternellement contre ma paix. Le sens-tu ou non que je suis là, ce convive que tu attendais? Mon repos est-il assez profond pour toi? Que dit-il ce pauvre cœur? La crèche est profonde qui s'ouvre à tous les agneaux du Seigneur. Si nous étions, nous n'étions différents, il n'y aurait pas ce désir, il n'y aurait pas ce besoin, il n'y aurait pas cette grande étreinte comme entre les époux. Si tu n'étais mon fils, ma fille, je ne serais pas aujourd'hui ce père à qui l'enfant prodigue jette les bras autour du cou. C'est ça, communier. En Jésus-Christ, nous plongeons dans les bras du Père, dans l'unité de l'Esprit-Saint. Doux mystère, grand mystère que celui de l'Eucharistie. Célébrez-le ce soir, dans vos églises. N'hésitez pas. Célébrez les jours saints. Célébrez et vous verrez comme c'est beau et grand.